Les 1er et 2 juillet à Saint-Élimy, c'est Bulle de Burle, le festival de bande dessinée en Lozère. Radio Bartas, en direct de Bulle de Burle, en avant la BD. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 ou sur radiobartas.net, en direct de Bulle de Burle, le festival Enemy BD qui bat son plein, qui a commencé samedi, et on va recevoir toute la matinée les grands gagnants du festival. Et pour commencer ce plateau, c'est un plaisir d'accueillir Timothée Osterman, bonjour.
Bonjour.
L'artiste à mi-temps a édité chez Sarbacane. Tu as reçu le prix Jeunesse. Merci d'être avec nous. Alors, je vais faire écho à ta BD pour commencer. Est-ce que tu considères avoir un vrai métier ?
Bien sûr. ouais. Alors,
qu'est-ce qu'on entend par vrai métier ?
C'est ça ? On entend par vrai métier, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par la notion de travail dans ma production, quoi. Ça a toujours été au centre. Alors, mon tout premier album, c'était un job étudiant dans un supermarché Leclerc. Et mon dernier, j'étais assistant pédagogique dans un lycée professionnel à mi-temps. Et j'aime pas trop travailler, mais du coup, parfois, j'ai pas le choix. Et ça me fascine vraiment. Et j'arrive pas à juste travailler sans produire quelque chose qui va me faire du bien un peu cathartique. Enfin, je suis obligé d'en parler parce que sinon j'ai l'impression que ça me sert à rien à part gagner un peu d'argent, quoi.
Alors justement, l'artiste à mi-temps, ça sent le vécu.
Ouais, c'est de l'auto-bio, mais je préfère dire auto-fiction.
Ouais.
Parce que quand on écrit une histoire, on fait toujours des choix. Et du coup, à partir du moment où on raconte une histoire, on change forcément un peu la réalité, mais c'est vrai que quasiment toutes les scènes sont quand même tirées de mon expérience. Voilà.
Alors justement, est-ce que les gags que t'écris, est-ce que c'est des choses que t'as eues et que justement t'arrives à reproduire assez facilement, ou alors est-ce qu'un gag en BD c'est autre chose que dans la vie ?
Ben, y a toujours une manière de le mettre en scène, mais c'est vrai que c'est souvent les situations, elles viennent quand même à moi. Il faut juste réussir à capter à quel moment c'est vraiment marrant ou pas, à quel moment c'est un peu gênant ou pas. Mais en fait, l'adolescence, comme j'ai travaillé avec des ados, c'est quand même un moment de la vie qui est un peu qui est marrant, dans le sens où les émotions, ça va à mille à l'heure, les réactions, ça part dans tous les sens. Donc du coup, moi j'avais juste à capter à quel moment c'était marrant ou pas. Et il y a des choses, effectivement, j'aurais jamais eu assez d'imagination pour sortir des situations. Par exemple, il y a une élève qui est malvoyante et qui est complotiste, par exemple, ça, ou qui est même raciste, à vrai dire. J'aurais jamais pu inventer un truc comme ça. Enfin, j'ai pas assez d'imagination, quoi.
La fiction dépasse la réalité parfois.
Ouais, carrément.
Est-ce que c'est comme au cinéma ou dans les one-man shows, est-ce que la BD doit avoir un top pour que la vanne soit bonne, en fait, et qu'elle arrive au bon moment ?
Alors, est-ce que c'est comme quoi, t'as dit ?
Comme les one-man shows ou le cinéma, finalement.
Oui, y a beaucoup d'écriture, c'est sûr. Moi, je relis énormément ce que je fais. Je redécoupe souvent. Et en bande dessinée, il y a quand même moyen de vraiment jouer sur le rythme avec la taille des cases, si on a plein de petites scènes. Dans cet album, j'essaie vraiment d'avoir un truc assez rythmé avec des moments de vie et des moments qui sont un peu plus rapides en sous forme de strip, où c'est vraiment des scènes humoristiques en quatre cases, comme dans les strips, dans les journaux, etc., etc. Mais c'était vraiment pour donner vraiment du rythme et des moments bien particuliers avec des élèves en tête à tête ou des moments de vie un peu plus calmes. Voilà.
T'as reçu le prix Jeunesse. Est-ce que c'est important de recevoir un prix comme ça ? Ça fait toujours plaisir, ou finalement, bon, oui, merci, au revoir.
Moi, je vais pas cracher sur la soupe, ça fait toujours plaisir. Et puis le trophée, il est marrant. Et j'ai eu une belle pièce de Saint-Enimy, du coup, je n'oublierai pas. Non, ça, moi, je J'ai pas de problème à recevoir des trucs, c'est sympa.
On va parler de ton parcours. T'as appris la BD, si j'ai bien lu, avec Lindingre, qui est bien connu pour son travail, notamment dans Fluide Glacial, mais pas que, auquel t'as participé, d'ailleurs, si je ne m'abuse, à Fluide Glacial. Hein. Tu bosses encore avec eux ?
Non, j'ai arrêté, mais j'ai bossé quelques années, ouais, j'ai mes trois premiers albums qui sont sortis chez eux. Mais quand Lindingre s'est fait virer, il y a eu un changement de cap et je me sentais pas de continuer parce que je sais pas par
amitié.
Filiation, amitié, ouais, je sais pas comment on dit.
Justement, parlons-en, c'est lui qui t'a appris ou qui t'a mis un pied dans la BD, c'est lui qui t'a appris la BD. Comment ça s'est passé ?
Alors, j'avais une bonne base quand même.
Bah, de toute façon, il en faut une.
Non, il m'a. Ah oui, j'ai fait les Beaux-Arts à Metz, moi, et c'était mon prof de BD. Et c'est vrai qu'il était très. Il m'a beaucoup suivi sur le scénario parce que je pense qu'il se considère plus comme un scénariste que comme un dessinateur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Et comme il a bossé sur beaucoup de scénarios, ouais, il m'a un peu pris sous son aile et on avait des rendez-vous hebdomadaires où. Oui, on relisait ce que je faisais, il me disait là c'est bien, là c'est pas bien, etc. Et c'est lui qui du coup a édité, qui a été éditeur sur mon premier album, ouais, et il m'a suivi pendant un an, presque un an et demi, quoi.
Est-ce que c'est plus difficile d'écrire du coup et de dessiner ?
Bah tout dépend de son niveau d'exigence en dessin, quoi. Enfin, ça peut très bien être quelque chose d'assez facile comme quelque chose d'assez douloureux. Moi, j'ai eu l'impression d'apprendre un peu au fur et à mesure, quoi. Je pense que plus j'avance et plus ce que j'écris, c'est pertinent et plus ce que je dessine aussi, c'est personnel. Parce que, en vrai, mon premier album, par exemple, j'avais jamais vraiment, je faisais un peu de BD, mais pas grand chose et je suis passé de quasiment rien à 160 pages. Donc, en fait, j'ai appris en faisant, donc. Mon premier album, c'est beaucoup des têtes qui parlent et enfin c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant en bande dessinée. Et maintenant, je fais des choix qui sont quand même plus cohérents et ouais, pertinents quoi.
T'es édité chez Sarbacane. Comment ça s'est passé la rencontre avec elle, la maison d'édition ?
Par mail, hein, à dire.
T'as envoyé ton travail ?
En fait. Ouais, c'est ça en fait. Il y a quand même beaucoup de maisons qui sont à Paris et moi j'habite en province, à Strasbourg. Et en vrai, oui, tout se passe quasiment par mail, quoi. J'ai envoyé un storyboard avec les 10 premières pages dessinées. Et après, t'envoies à des maisons d'édition chez qui tu penses que ton travail va être lu, reçu et apprécié. Bon, et puis après, il faut juste croiser les doigts et pleurer toutes les nuits en attendant une réponse, quoi.
C'est quoi une bonne maison d'édition ?
Une bonne maison d'édition, c'est une maison qui donne de l'argent. Non, je pense que c'est avant tout un travail éditorial qui est intéressant. Je pense que moi, je suis content d'avoir bossé avec des gens qui ont soigné mon livre et le papier, la fab, l'impression. Ouais, et même le travail de suivi, c'est-à-dire qu'on a quand même eu des discussions et il était assez pédagogue quand même. Dans le sens où il me proposait des pistes dans lesquelles aller, mais en disant toujours que ce projet m'appartenait et que c'était que des pistes de réflexion. Il y a plein de trucs où je lui ai dit non. Par exemple, il m'a dit ça serait bien qu'il y ait des scènes à la cantine, et des choses comme ça. Mais moi, j'avais vraiment envie de garder le côté huis clos, le côté un peu carcéral du lycée où moi, finalement, j'étais dans ce CDI et je voyais pas grand chose d'autre. Et du coup, il y a des choix de mise en scène. Je lui ai expliqué, il a dit ah ok, ben on laisse comme ça, etc. Mais il m'a aussi proposé des trucs que j'ai gardés, voilà, des passages qui étaient un peu plus fragiles ou trop courts, trop longs, etc.
Le monde de la BD se porte pas trop mal, on va dire. Quel est ton regard justement sur ce monde-là, en fait ?
Alors oui, est-ce que ça se porte pas trop mal ? Oui, les ventes sont pas mauvaises, mais je vais enfoncer des portes ouvertes, mais la situation d'être un artiste auteur, c'est compliqué, quoi. Enfin, les avances sont pas terribles. Enfin, ça me prend à peu près un an et demi, voire 2 ans à faire un album. Et en fait, si je regarde tout ce que je gagne, je suis à moins que le SMIC. Donc, moi, je suis obligé de faire plein de trucs et de de faire de l'illustration à côté. Je suis prof de BD dans une école d'art appliqué à mi-temps, etc. Donc en fait, c'est compliqué de faire que de la BD pour moi, quoi.
Ouais, donc il se porte bien parce qu'il y a 6000 parutions, mais en vivre, c'est autre chose, quoi.
Je fais de la presse aussi, je fais de la BD pour la presse, etc. Donc c'est considéré comme de la BD, mais si je devais juste vivre avec mes albums, sans dessiner à côté d'autres choses, ça serait compliqué, ouais, bien sûr.
T'as des projets à venir ? Nouvelle BD ?
Ouais, ça fait un an là que je storyboard un truc. J'ai envie de me frotter à la fiction, chose que j'ai jamais fait. Parce que ça me venait même pas à l'esprit, à vrai dire. J'avais vraiment envie de faire une espèce de BD un peu sociale, qui raconte un peu la vie des gens que je côtoie. Enfin, j'avais envie de raconter des choses qui se passent à la campagne, des choses enfin un peu que je connais, quoi. Et là, ouais, j'en ai marre de me dessiner, je crois. toujours me dessiner. J'essaye d'un peu de me décentrer et de raconter un truc très fictionnel. Donc là, je suis en train d'écrire quelque chose qui s'apparente à un polar un peu marrant, un peu con, un peu une sorte de pastiche Agatha Christie absurde. Mais
ça parle.
Comment ?
Ça parle, ouais.
Ouais, mais ça me plaît de faire ça, je crois. Enfin, d'avoir un truc un peu plus, de me permettre des trucs un peu plus fous en termes de dessin aussi que des choses trop ancrées dans le réel, quoi.
Tu l'as dit, tu donnes des cours. Quels conseils tu donnes aux étudiants qui voudraient se lancer dans la bande dessinée ?
Bah, il faut être passionné, quoi. Enfin, si, il faut être passionné, il faut quand même, c'est con ce que je vais dire, mais il faut pas avoir peur de passer beaucoup de temps à bosser. Ouais, enfin la BD, c'est un travail de dingue, quoi. Mais c'est hyper passionnant. Mais si on n'est pas passionné, si on n'aime pas écrire, pas dessiner, faut pas se lancer là-dedans.
Le message est passé, tu es prix jeunesse ici au festival. La BD s'appelle L'artiste à mi-temps, c'est publié chez Sarbacane. Merci beaucoup Timothée.
Bah merci.
Auditeur, auditrice, il est toute la journée ici au festival. La pause musicale pour nos prochains invités. On prend le temps, on est tranquille, on est bien. Allez, tranquille, merci Arthur. We'll be right back.
tes mains divines. Referme sur moi tes ailes, mon bel ange, ma toute belle. Oh my lady héroïne, ma liaison clandestine. En douceur mon sucre candy, emmène-moi au paradis.
Direct toujours du festival Bulle de Buant, la Saint-Élémy, le festival de BD qui bat son plein. C'est un plaisir d'accueillir en plateau le prix du festival, Francis Vallès, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en pleine dédicace, comme ça je vous ai tiré un peu de la table. C'est agréable quand même ces moments de dédicace, c'est une vraie rencontre avec le public.
Ouais, oui, toujours c'est très agréable, oui. Et puis les gens sont charmants, donc c'est bien.
Alors, Salvatore, les damnés de l'or brun, publié chez Glénat avec Alcante et Fabien Rodin, prix du festival, c'est la classe.
Oui, c'est bien, c'est toujours bien de recevoir des prix, ça fait plaisir, ça flatte son ego, c'est bien.
Alors, je ne l'ai pas encore lu, hein, Salvador, j'ai hâte, j'ai vu quelques planches, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire en quelques mots?
C'est une sorte de saga familiale qui se passe au 19e siècle, qui démarre au 19e siècle. La particularité de cette mini-série, c'est qu'on évolue dans le temps, le tome 2 se passera 20 ans plus tard. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une famille qui exploite des plantations de cacao, et donc on traite de ça et évidemment de l'esclavage, puisque à cette époque-là, les machines n'étaient pas très, enfin, il y en avait très peu, et donc on servait de la machine humaine pour le travail.
D'où est partie l'idée, avant qu'on parle de la collaboration et de comment vous avez travaillé avec Alcante et Fabien?
Mais en fait, c'est Didier Alcante. C'est une histoire un peu bizarre parce que Didier Alcante me propose ce projet. Et il se trouve que ça se passait à Angoulême. On en discutait. Le lendemain, il a dû rencontrer Fabien Rodin entre scénaristes et tout. Et il vient me revoir en me disant « C'est un peu ennuyeux, il y a un autre scénariste qui a exactement la même idée que nous. » Alors je lui dis, moi j'ai pensé qu'on allait abandonner le projet, et en fait ils se sont mis d'accord et ils travaillent à quatre mains tous les deux, et ça se passe très bien, donc il n'y a pas de souci.
Donc il vous envoie le scénario et vous lisez et le dessin arrive tout de suite? Comment ça se passe dans la tête d'un dessinateur comme ça?
Moi, je reçois le scénario et puis page par page, je mets en scène en fait d'après leurs indications. Alors c'est moi qui choisis évidemment le cadrage, tout ça, mais c'est ça le travail du dessinateur.
Comment vous le qualifiez votre dessin justement? Est-ce que c'est possible de le qualifier d'ailleurs?
Ouais, je suis un dessinateur réaliste dans la lignée des grands dessinateurs réalistes d'antan qui ont malheureusement disparu. Voilà, je peux me qualifier ainsi, ouais.
Alors justement, quelques noms comme ça de gens qui vous ont inspiré.
Ah, il y en a plein, Giraud, Giget, Gillon, ils commencent tous par des G. Il y a beaucoup de dessinateurs américains des années 60-70 dont j'ai adoré le travail et qui m'ont énormément influencé. Quand j'étais petit, je voyais ces dessins, je me demandais comment c'était possible de réaliser des choses aussi belles. Enfin bon, bref, et puis dans les Français, les Belges, il y en a énormément. Les grandes heures de la bande dessinée, il y a quelques décennies, on avait vraiment le choix.
Ouais, on pense à Franquin notamment. Qui
absolument... Entre autres, mais lui, c'est un dessin plutôt humoristique.
Ouais, c'est vrai.
Mais on reconnaît le talent quand même, hein, c'est évident.
Alors justement, votre parcours, avant tout, est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir? Quand vous avez eu votre première BD entre les mains, est-ce que ça vous a procuré comme émotion?
En lecture ou en...
En lecture, oui.
Ou
quand vous étiez
mon
gamin.
Mon premier album. En lecture.
Ouais, on parlera de votre première
album. Étant petit, je lisais ce qu'on appelait les revues de gare, c'est-à-dire ce qu'on trouvait dans les kiosques, Hakim, Black Le Rock, les choses comme ça. Donc évidemment mon idole c'était Black Le Rock et après j'ai il y a eu une évolution quand j'ai découvert par exemple le journal de Tintin ou de Spirou où j'ai vu que là le niveau était plus élevé et tout et ainsi de suite et puis voilà.
Et alors justement vous l'avez abordé, vous, l'effet que ça vous a fait quand vous avez eu votre première BD éditée?
Ah, c'était le rêve abouti en fait. Hein. Enfin, j'étais quand même jeune et puis plein d'espoir et d'espérance. Oui, ça fait. C'était un truc de un peu fou parce qu'en fait c'était surtout mes copains qui étaient plus heureux que moi et je me rendais pas bien compte en réalité. Mais j'avais été surpris de la réaction de mes copains qui j'avais l'impression que c'était eux qui avaient fait le livre et c'était super sympa quoi.
Aujourd'hui vous êtes chez Glénat, quand même une belle maison d'édition. Comment ça s'est passé la rencontre avec Glénat et comment ça se passe aujourd'hui?
Ben, ça, c'est assez simple. Hein. Bon, maintenant, j'ai plus besoin d'aller proposer mes dessins à des maisons d'édition comme Glénat ou autre. Mais dans le temps, c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Maintenant, Angoulême, comme je vous ai expliqué pour cette histoire sur les damnés de l'Orbrun, on a rencontré en même temps Franck Marguin, qui est le directeur éditorial, et qui on lui a proposé le projet. Il était emballé et c'est parti comme ça.
C'est quoi une bonne BD?
Une bonne BD? Une bonne BD, c'est d'abord une très bonne histoire, avant tout. C'est le scénario avant tout.
Le dessin aura beau être excellent si le scénario tient.
Exactement. J'ai des livres de dessinateurs extrêmement doués, mais les histoires sont inintéressantes. Mais je les ai pour le graphisme parce que ça m'intéresse tellement de voir leur travail. Mais une très bonne BD, c'est d'abord une très bonne histoire. Et évidemment, si le dessin suit, c'est splendide.
Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui voudraient se lancer dans la bande dessinée aujourd'hui? C'est la question que je pose à la fin à notre dessinateur. Je sais, elle n'est pas toujours simple.
Je vais pas faire le vieux con, mais franchement, ça se dégrade de plus en plus. La situation de l'édition BD se dégrade de plus en plus, notamment pour les éditeurs, mais pour les dessinateurs. Je peux pas leur dire faites autre chose parce que j'ai été dans ce cas, c'est leur rêve et tout, mais je me demande si c'est un métier d'avenir.
En tout cas, on espère que ce sera encore le vôtre pendant de belles années.
Oui, non, mais bien sûr, mais le monde change. J'ai connu l'univers de l'édition était tout à fait différent il y a 10, 20 et 30 ans. C'était déjà dur, c'est des métiers très durs, parce que je parle pour survivre, hein, pour vivre, hein, puisqu'un métier, si vous gagnez pas votre vie, pour moi, c'est pas un métier. Et ça devient de plus en plus difficile. Donc, ouais.
C'est ça, on en parlait avec Philippe qui est le président du festival et que je salue très amicalement. Il y a 6000 parutions par an, il faut se faire sa place. Quoi.
C'est trop, c'est beaucoup trop. Alors quand on en discute avec les éditeurs, ils vous disent oui, on va réduire la voile et tout, mais il se passe des choses que je maîtrise pas, parce que moi je suis pas dans, je suis simplement dessinateur, je suis pas dans l'édition, mais il y a des écoles de BD maintenant, des jeunes qui sortent avec des pseudo-diplômes et tout, et en fait, je vois un peu les éditeurs comme des requins qui se projettent dans le banc de poissons, vous voyez, et ils disent, ils les payent très peu pour le travail fourni. C'est bien pour un premier album, parce que généralement, vous avez ou vos parents derrière, ou votre conjoint ou conjointe, mais faire une vie là-dessus, c'est très très difficile. Je suis un peu pessimiste, hein. J'espère que tout s'arrangera, mais bon, j'y crois pas trop.
Merci beaucoup d'avoir pris
Merci
ce
prix. Merci à vous.
Le prix du festival Bulle de Bure, le Francis Vallès, pardon, je vais y arriver, Salvador et les damnés de leur brin, décidément, c'est publié chez Glénat, c'est avec Alcante et Fabien Rodin. Et c'est trop la classe toute la journée ici au festival en dédicace. Merci beaucoup.
Merci à vous.
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
alors... la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Moi, je voulais savoir. L'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Écoute, essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon. Ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la.
Mais oui, étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La 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 la
papa mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tient.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends ?
De retour au Bulle de Mur, le festival Ennemi BD qui bat son plein. Nous sommes en plateau avec Florence Magnin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Prix Légende. La
oui,
classe.
Prix Légende. Oui, oui.
Ça fait quoi? Ça fait du bien ou...
Ah, ben ça fait du bien. Tous les prix font du bien, vous savez. Mais Légende, ça correspond bien en plus à mon travail, donc ça tombe bien.
L'intégralité de votre œuvre, ça fait 33 ans, si j'ai bien lu, que votre première BD est sortie. Parce qu'il faut dire qu'avant, vous ne vous destiniez pas forcément à la bande dessinée, vous étiez plus dans l'illustration. Et c'est grâce à Christian Godard et Julio Ribera, des éditions du Vaisseau d'Argent, que vous allez d'abord en tant que dessinatrice vous atteler à votre première BD, L'Autre Monde. Comment s'est passé justement ce pas dans L'Autre Monde ?
Bah, en fait, L'Autre Monde, c'est une histoire qui a été conçue et écrite par Rodolphe, qui est un scénariste très prolifique, connu. Et à l'époque, moi, je ne le connaissais pas. Et en fait, quand je suis allée voir Christian Godard et Julio Ribera, ils avaient le synopsis, le résumé donc, de l'histoire de L'Autre Monde dans leur tiroir, parce qu'en fait, il n'y avait pas de dessinateur pour cette histoire. Et ils me l'ont donné à lire. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire, à la suite de quoi j'ai rencontré Rodolphe, j'ai montré ce que je faisais puisque j'avais fait que de l'illustration et pas du tout de bande dessinée. Et c'est comme ça que L'Autre Monde a démarré.
Quelle aventure! Alors, faut bien savoir aussi que c'est des aventures en 4 cycles, c'est ça?
Oui, il y a 4 cycles et chaque cycle comporte 2 albums.
Alors, si j'ai bien lu aussi, vous avez voulu faire les Beaux-Arts, mais comment dire, pour faire simple, l'aventure s'est pas très bien passée.
Oh, c'est pas que ce soit vraiment mal passé, mais à l'époque, ça nous remet très loin, hein, c'est 70. Hein.
70.
Donc, c'est vrai que c'était un petit peu... bon, c'était une école qui n'était pas... C'est pas que c'était pas sérieux, mais les professeurs passaient quand ils en avaient le temps. Enfin, vous voyez, c'était juste après 68, c'était un petit peu comme ça. Et donc, moi, j'y allais vraiment pour essayer d'apprendre des techniques, enfin, des choses précises. Et j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et en fait... Bon, j'ai fini par être autodidacte en fin de compte. Maintenant, je pense que les écoles de dessin ont beaucoup évolué, que c'est beaucoup plus carré. Mais bon, ben à l'époque, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs, d'illustrateurs de ma génération sont autodidactes. En fait.
Alors justement, comment on apprend quand on est seul face à une page blanche? Est-ce qu'on reproduit des choses? Comment ça se passe les débuts d'autodidacte justement?
Bah, déjà, moi, j'ai toujours, enfin, comme beaucoup de dessinateurs, hein, j'ai toujours dessiné. Donc, j'ai commencé à dessiner quand j'étais enfant. Donc, j'avais déjà quand même mes propres bases, on va dire. Et puis après, bah, je pense qu'on a une bonne mémoire visuelle et donc on engrange plein de choses. Et quand on travaille, même seul, tout ça se mélange et ça ressort sous un aspect plus ou moins personnel, évidemment. Mais en fait, oui, on reproduit de mémoire des choses qu'on a vues. On apprend continuellement, en fait. Quand vous regardez un film, quand vous regardez d'autres illustrations, quand vous regardez des peintures, vous emmagasinez des images, voire même des techniques. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je suivais du doigt les images. Et tout ça, ça se mémorise, en fait. Et après, bah, oui, après, c'est un peu au feeling, hein, suivant ce qu'on ressent.
Comment vous travaillez avec Rodolphe, justement? Est-ce que il vous envoie les scénars et vous avez les images tout de suite qui vous viennent en tête, ou alors lui vous aiguille, ou alors c'est vous qui l'aiguillez? Comment ça se passe?
Ben, en fait, sur L'Autre Monde et même sur les autres histoires qu'on a faites
ensuite
ensemble, Mary Lanoir, déjà il y a ce qu'on appelle un synopsis, bon, résumé de l'histoire. Donc là, on en discutait ensemble. Est-ce que je le sens? Est-ce que tu le sens? Qu'est-ce que tu vois comme personnage? Oui, c'est vraiment une coopération, hein, donc c'est un couple entre guillemets quand même, hein. Et donc moi je faisais des croquis que je lui montrais. Je pense que ça se passe la plupart du temps de la même façon, hein. Il me disait si les personnages personnage correspondait à ce que lui avait imaginé. Sinon, bah, on modifie un petit peu, on travaille ensemble. C'est vraiment un partenariat. Et puis après, au fil des planches, alors lui, il est très précis. Ça dépend des scénaristes, mais il est très précis. C'est-à-dire qu'il envoyait vraiment des pages avec un découpage très précis. Image 1, il se passe ça. Les personnages disent ceci, cela. Image 2, etc., etc. Après, et c'était ça l'avantage avec lui, c'est qu'il me laissait quand même très libre. C'est-à-dire que si moi, sur le découpage d'une planche, donc extrêmement précis, je sentais un peu autre chose que pour mon propre imaginaire ou ma propre vision de l'histoire, fallait peut-être faire une seule grande image ou couper la page en deux, je ne sais pas. On en discutait à nouveau, mais généralement, c'était pas... Du moment que le texte était là et respecté, le reste, j'étais assez libre.
Et puis, vous avez décidé de... vous avez continué l'aventure toute seule avec un travail colossal, juste puisqu'avec l'héritage d'Émilie, vous avez tout fait. Du scénario au dessin, jusqu'à la couleur, l'ancrage, le lettrage. Alors, ça a juste dû vous prendre un temps complètement dingue.
Bah oui, mais enfin, ça reste quand même assez normal, je dirais, parce que c'est une histoire en 5 parties, 5 albums de 48 pages. Hein. Et donc, j'ai mis 8 ans. Ce qui est assez normal, en fait.
Normal. quelles sont vos sources d'inspiration en BD ? Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui continue peut-être de vous inspirer aujourd'hui ?
Oh, bah, c'est des grands classiques, en fait. Moi, quand j'ai commencé, en tout cas, c'était Loisel, c'était Bourgeon, c'était voilà, des choses comme ça. Moi, je sais que les Passagers du Vent ou les Compagnons du... Voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment... qui m'ont influencé, hein, certainement. Et puis sinon, après, il y a aussi au niveau de l'illustration classique, comme Rackham ou Doré, etc., tous les illustrateurs anglais, ou même pour enfants aussi, il y a des illustrateurs pour enfants qui sont splendides. J'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, c'est encore une fois, c'est des sources vraiment très variées, hein. Ça peut être aussi les pré-raphaélites. Enfin, on emmagasine beaucoup d'images, et puis finalement, tout ça, ça fait un mélange.
C'est quoi une bonne image ?
Une belle image ?
Une bonne image, en
tout cas. Une bonne image, c'est une image dans la... Enfin, pour moi, hein, personnellement, c'est une image dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je peux entrer. Si je suis à l'intérieur de l'image, vraiment l'impression d'être dedans, a priori, elle fonctionne bien. Si, au contraire, j'ai un peu de mal, je ne le sens pas, je reste extérieur au truc, c'est qu'il y a quelque chose, soit dans la perspective, il y a des raisons, il peut y avoir des raisons très précises, hein, pourquoi ça ne fonctionne pas, des raisons techniques. Et là, à ce moment-là, effectivement, le dessin n'est pas bon, il est à reprendre.
Vous continuez l'illustration, hein, puisque vous avez aussi illustré, si je ne m'abuse, l'excellent jeu de société Citadel, notamment. Ça a été un best-seller, Citadel, l'un des jeux les plus connus, je pense, en France. Comment ça s'est passé et justement, comment on vous contacte pour faire des illustrations de ce genre de choses ?
Moi, au tout début, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des jeux de rôle. Mais à l'époque, j'étais très débutante, donc c'est moi qui suis allée frapper à la porte de Casus Belli sur les conseils d'un ami qui m'avait dit, comme je fais du dessin un peu fantastique, c'est peut-être une bonne option. Et donc, j'ai travaillé pour le journal. Après, j'ai travaillé pour d'autres revues de jeux de rôle. Et de fil en aiguille, j'ai beaucoup travaillé aussi pour Citadel, mais aussi pour Rêve de Dragon. Dragon radieux, tous les dragons possibles. Et après, Rêve de Dragon se poursuit encore. Parce que c'est un jeu qui est tombé un petit peu dans l'oubli pendant une vingtaine d'années, qui vient de renaître de ses cendres chez Scriptarium. Donc maintenant, on ressort à nouveau tous les anciens scénarios de Rêve de Dragon. Donc c'est assez amusant, parce que je me retrouve dans la même ambiance. En fait.
Aujourd'hui, vous êtes publié chez Dargo, une belle maison d'édition. Quand même, l'importance de se faire éditer, disons, dans les grandes maisons comme cela, c'est énorme. Ou alors finalement, même des plus petites maisons d'édition ont tout autant de possibilités.
Elles ont quand même moins de possibilités, forcément, encore que maintenant, il y a aussi les souscriptions qui marchent très bien, puisqu'actuellement, je travaille avec une beaucoup plus petite maison d'édition qui s'appelle Mestivenen, qui est spécialisée dans la littérature fantastique, mais chez qui je viens de réaliser, par exemple, 2 tarots divinatoires, une chose assez atypique, une réédition du tarot d'ambre qui avait été réalisé pour Jeu des cartes il y a 20 ans de ça, et un nouveau tarot du labyrinthe. Ce sont des choses qui sont, comme la maison d'édition n'a pas des moyens énormes, qui sont réalisées par souscription, et qui permettent effectivement d'avoir des productions intéressantes que peut-être une plus grande maison d'édition n'accepterait pas de faire.
C'est ça, une espèce d'indépendance peut-être ?
Oui, il y a plus d'indépendance. Moi, j'ai des projets comme ça, un peu atypiques, hein, tarot divinatoire ou même des livres pour enfants qui ne vont pas forcément trouver preneur. C'est très compliqué de trouver un éditeur en ce moment. En tout cas, moi, j'ai du mal. Et donc, c'est vrai que des plus petites structures comme ça, bah, c'est une opportunité de placer des projets.
33 ans de bande dessinée, vous re-signez pour 33 ans de plus ?
Ben, moi, j'aimerais bien continuer la BD, mais comme je vous le disais, en ce moment, c'est un peu compliqué pour placer des projets.
Pour beaucoup. Ouais.
J'ai deux ou trois projets de BD en ce moment, mais qui sont pour l'instant dans des tiroirs. Bon, pour l'instant, ça va peut-être... voilà. Mais sinon, j'ai d'autres projets. L'illustration, moi, je suis toujours restée quand même très proche de l'illustration. Donc, si je peux continuer à faire des tarots, j'ai un autre projet de jeu de cartes, en fait. Mais j'aime beaucoup travailler de cette façon. Donc en fait, il y a la bande dessinée et puis il y a d'autres choses en parallèle. On ne peut pas tout faire, donc ça va se faire un peu au coup par coup, suivant les disponibilités des éditeurs. Hein. Après, ce n'est pas moi qui, au final, décide.
En tout cas, merci beaucoup Florence Magna. Merci d'être venue à notre micro. Félicitations pour ce beau prix Légende, remporté ici à Saint-Élimy au festival Bure de Burle, où vous passez toute la journée en dédicace, auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à venir. Alors, vous avez du monde, hein, donc à mon avis, vous n'allez pas vous ennuyer. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
direct du festival Bulle de Burle sur Radio Bartas, sur cette FM ou sur radiobartas.net en direct. Et oui, à la technique, c'est Arthur. Merci Arthur. Et à la coordination chargée de reportage, Léo. Merci beaucoup. Léo, que vous aurez l'occasion. Tu vas faire de ton reportage, Léo. Hein. Il va se balader. Ça va être bien. Que vous aurez l'occasion d'entendre. On est là pour le festival BD qui bat son plein toute la journée encore ici à Saint-Enimy. Je remercie chaleureusement Philippe, le président du festival. Nous ont rejoints puisque ces interviews sont consacrées au prix reçu ici au festival Bulle de Burle, le prix de la création partagée. André Houot, bonjour. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro comme c'est de la radio. Hein. Oui. C'est mieux. Bonjour.
D'accord, bonjour.
Et Jocelyne Charance, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup. Vous avez le prix de la création partagée, notamment pour Asile, paru chez Glénat. Commençons par le début. Comment ça s'est passé, votre rencontre à tous les deux?
Ma rencontre avec le festival.
Avec Jocelyne, en tout cas.
Avec Jocelyne. Ah, la rencontre avec Jocelyne, elle était ma coloriste bien avant qu'on se connaisse physiquement. Et on s'est rencontrés donc à l'issue d'un drame familial. Mon épouse a été tuée dans un accident de voiture et du coup on a les liens qui étaient déjà émanants à l'époque se sont renforcés. Elle est devenue coloriste chez moi et puis ensuite on a vécu ensemble et continué à faire des bébés sur du papier. Voilà.
Du tragique est née une aventure extraordinaire, Jocelyne.
Oui, ben c'est sûr. Moi, j'ai commencé la BD en 95 et puis on s'est connus en 97. Donc après, j'ai travaillé pour plein d'autres dessinateurs et ma carrière de coloriste a commencé à ce moment-là vraiment avec André, quoi.
On voit beaucoup de BD aujourd'hui, j'ai déjà entendu pas mal de bédéphiles dire qu'aujourd'hui la couleur se fait trop par internet,
par ordinateur.
Comment vous travaillez justement?
Justement, au début c'était à la gouache, tout était à la gouache sur bleu, puis petit à petit il y a eu l'ordinateur. Moi j'ai tenu jusqu'au bout en me disant non, je ne me mettrai pas à l'ordinateur, je continue à la main. Et au bout d'un moment les éditeurs m'ont dit non, ça ne va pas le faire, on ne donne pas le boulot si tu ne fais pas à l'ordi. Donc, mais je savais faire l'ordi parce que j'avais travaillé pendant le dessin animé, donc c'est plutôt que je voulais pas y m'y mettre tout de suite pour faire comme des dégradés comme ils faisaient tous là, avec leurs effets qui n'appréciaient personne. Donc du coup j'ai tenu le coup et après maintenant je me suis remis à l'ordinateur aussi hein, parce que
c'est plus facile, ça va plus vite.
Non, on perd du temps à l'ordinateur, c'est plus long. C'est plus facile si c'est des aplats, style Tintin, truc comme ça. Donc c'est fait évidemment copier-coller la couleur, c'est facile parce qu'à la gouache des fois il y a trois couches. Mais moi, sur les BD réalistes, c'est beaucoup plus long.
Plus long.
Ouais.
Je vous vois à la sortie, André. Donc, ce prix. Alors, non, c'est quoi?
La médaille.
Alors, c'est la médaille.
C'est carrément la médaille de Saint-Émini, avec les armoiries. Et puis, voilà, commune de Saint-Émini. C'est le prix qu'on a eu hier. La récompense qu'on nous a attribuée hier pour notre travail en commun.
Voilà, est-ce que, alors, un prix, c'est bien? C'est encore mieux quand c'est partagé?
Oui, c'est ça, c'est le prix partagé.
Est-ce que c'est utile un prix encore aujourd'hui? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Maintenant, j'ai 76 ans, c'est ce que j'ai dit hier pour faire rigoler un peu tout le monde. J'ai dit, j'ai eu le prix de gymnastique en 1954 et puis j'avais rien eu entre temps. Je suis content que ça se termine avec celui-là. Cette fois-ci, non, mais je pense pas que ça ait une grande utilité, ça fait toujours plaisir d'être récompensé par ses pairs et puis par, parce que je pense que la vie des autres dessinateurs intervient aussi dans l'attribution du prix. Mm-hmm. Et donc ça fait plaisir hein, d'avoir une reconnaissance devant un public aussi. Voilà.
Comment vous travaillez tous les deux? Est-ce que l'idée germe comme ça, vous partagez énormément ou alors c'est chacun dans son coin?
Non, il est derrière moi tout le temps.
Non, moi je dis qu'on travaille chacun dans son coin. Non, c'est vrai que pour le dernier album, elle m'a eu sur le dos tout le temps. Voilà.
Au moins, c'est clair.
Plus il vieillit, plus il est exigeant.
Ben, l'exigence, ça permet
d'atteindre... Mais moi, ça me fait travailler aussi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses hein, avec les dessinateurs. J'ai accepté, par exemple, toutes les remarques, tout ce qu'il me disait, rien qui me vexait, rien qui me décourageait. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses.
Est-ce que j'aurais tort de dire que Asile, c'est un dessin complexe au service d'une simplification et d'une démystification du Moyen-Âge?
On a fait deux petites performances avec cette BD. La première, c'est de faire revivre un château qui est une ruine actuellement, mais qui avait une histoire. Il a une histoire. Elle est connue localement. Si on tape Zizim, c'était le surnom qu'avaient donné les chrétiens aux princes musulmans qu'ils ont accueillis dans ce château. Si on tape ça sur Google, on a tous les renseignements. On sait qu'il est arrivé là au mois de juin 1483. C'était pas un prisonnier, hein, il était dans cette forteresse parce que pour sa protection aussi, pour ne pas avoir d'histoire, ce prince de 29 ans est arrivé là. Il avait le droit de se balader, d'ailleurs les petits seigneurs locaux l'invitaient régulièrement parce qu'ils étaient fiers de recevoir un prince ottoman, quoi. Et donc il a fini par tomber amoureux d'une fille du pays, et ça a fait une petite embrouille, ce qui fait que dans les mois qui ont suivi, il s'est retrouvé à Bourganeuf, dans une tour, mais là, il était carrément enfermé.
C'était la prison.
Est-ce que vous riez de vos dessins quand on dessine comme ça? Est-ce qu'on rit beaucoup? Ou alors est-ce que c'est long, fastidieux, et des fois on en a marre et on a envie de tout jeter par terre?
Rire de nos dessins?
Oui,
On commence à rire de nos dessins, on rit jaune parce que on se dit merde, j'ai raté mon coup sur
En tout cas, je parlais du plaisir qu'on y prend.
Ah, le plaisir, oui. Alors là, on est content de la plupart du temps quand même. On a un produit fini devant nos yeux. Quand ça passe à la couleur ensuite, on a l'ambiance qui vient en plus par-dessus. Donc ça fait plaisir, oui. Ça, on est satisfait. Hein. On a des satisfactions que tout le monde n'a pas dans son boulot, obligatoirement, parce que il y a beaucoup de gens quand même qui font des métiers compliqués, qui sont quelquefois rébarbatifs, que les autres n'ont pas envie de faire. C'est ce que les métiers qu'on laisse dans le bas de l'échelle sociale. Et nous, on n'a pas ça. Nous, on a la chance d'avoir le résultat assez rapidement de ce qu'on a fait.
Qu'est-ce que ça fait justement, Jocelyne, quand on a la BD finie et qu'elle arrive comme ça en objet
Maintenant, on est plus content de la BD qui arrive. Mais au départ, je sais que quand on a commencé la BD, quand c'était fait à la gouache et aux encres et tout, ça passait mal à l'impression des fois. Ah. On a des albums qu'on était très déçus en les recevant. Ouais. On ouvrait, on fermait parce qu'on n'était pas content. C'était des fois très pâle ou une couleur rouge qui ressortait ou une couleur bleue. C'était pas très fidèle.
Donc, pas
maintenant, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a. Bon, c'est un petit peu moins lumineux que ce qu'on a sur l'écran, mais c'est beaucoup plus fidèle à nos couleurs maintenant qu'avant.
Quelles sont les BD qui vous ont inspiré, Jocelyne? Les bandes dessinées?
Moi, j'aimais Bourgeon, tous ces BD un peu très, comme André aimait bien aussi au départ. Donc, voilà. Mais moi, je ne suis pas une grande lectrice de BD. Hein.
Ah.
J'ai découvert un peu la BD quand j'ai commencé la couleur, un peu par hasard, mais je ne lis pas beaucoup de BD. Moi, j'aime bien regarder les dessins couleurs, mais je suis pas trop histoire de BD.
Et vous?
Ah ben moi, c'est Bourgeon, justement. Elle parle de Bourgeon, mais ouais. J'aurais pas connu cet auteur-là, là, qui travaillait déjà sur des choses médiévales ou la question de comment on appelle l'esclavage, des choses comme ça. Mais c'est surtout ce qu'il avait fait sur le Moyen-Âge qui m'a épaté. Un jour, c'est une fille. Je faisais de l'archéologie avec. Il y avait des jeunes filles qui faisaient la fouille, qui faisaient du tamisage de ce qu'on trouvait. Et puis elle avait un bouquin sur Bourgeon, un des albums de Bourgeon. Et pour moi, la BD m'intéressait pas, absolument pas du tout, parce que j'en lisais pas, je trouvais les histoires de gros nez, les histoires humoristiques, tout ça, ça me faisait rire qu'à moitié. Et c'était pas du tout mon univers. Et quand j'ai lu cette BD de Bourgeon, je me suis dit, c'est comme un film, quoi, c'est vachement bien foutu. On est comme dans un film, c'est les mêmes tenants et mêmes aboutissants, c'est-à-dire on a un scénario, une histoire qui se tient avec un fil conducteur et puis un dénouement à la fin. Et en plus de son graphisme qui me paraissait très beau, mais je me disais c'est à ma portée, je dois pouvoir arriver à faire aussi bien. En dehors de ça, j'ai vraiment trouvé que c'était du cinéma. Du grand cinéma, quoi.
Là, c'est ça, on est vraiment en fait. un monde des faits entre les arts, en fait. Finalement, entre le cinéma, même le spectacle ou la bande dessinée, tout se suit, quoi.
Voilà, la BD, c'est un mélange. Alors, c'est vrai que c'est un métier compliqué parce qu'il faut tout faire, hein. Il faut être accessoiriste, il faut être metteur en scène, il faut être, en même temps, il faut s'occuper des ambiances, il y a des prises de vue qu'on peut pas faire. On peut les faire en dessin, mais dans un film, on peut pas faire une séquence dans laquelle il y a des nuages un jour, puis d'un seul coup passer un ciel bleu. Et ben là, c'est un peu la même chose. On peut pas faire n'importe quoi non plus. On est obligé de se documenter. On est documentaliste. On fait du repérage aussi, pareil. Pareil, on fait à peu près tous les métiers qu'une quinzaine de personnes font pour faire un film, ou une vingtaine de personnes.
Mmh. Ouais. Jocelyne, est-ce que le métier de coloriste pur pourrait encore exister aujourd'hui?
Bah, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. En fait, je crois que le métier se finit un peu. Et puis, dans les écoles, en plus, ils n'apprennent pas vraiment à être coloriste. Je pense. Hein. Mmh. Après, je ne sais pas comment ils font. Il faut être vraiment dans le milieu pour connaître les gens, démarrer cette profession. Moi, j'étais par hasard, donc j'ai appris avec des amis coloristes, et parce que j'étais au chômage, et donc je me suis entraînée un petit peu avec elle et ça a marché. Je savais même pas que j'étais douée pour ça, hein, ça a été du tout. Donc j'ai continué comme ça, mais maintenant je me demande comment elles font. Il y a beaucoup de dessinatrices qui font de la couleur, mais que coloristes, je suis même pas sûre qu'ils... Moi, j'ai vécu de ça quelques années, mais actuellement, que coloriste, je suis pas sûre que ça soit encore un métier qu'on peut en vivre, quoi.
Je vous vois, André, admirer vraiment cette médaille. elle va aller où, cette médaille?
Elle va aller... la médaille, elle va aller avec d'autres objets que j'ai du même genre. Voilà, des petites choses que j'ai reçues en récompense aussi à d'autres festivals. Parce que c'était pas vrai, hein, que j'avais eu que le prix de gymnastique en 1954.
On a senti l'humour derrière. D'autres projets encore à vivre ensemble quand même?
Non, en BD, pour moi c'est terminé. C'est mon dernier album. J'en fais plus après.
Comment on décide ça? Est-ce que Aznavour a fait ses éternels adieux, hein?
Oui. Non, mais là, je suis Vosgien d'origine et les Vosgiens sont têtus. Têtus comme des... On dit... Vosgien tête de chien et franc-comtois tête de bois, ça tombe bien parce que mon père était franc-comtois, ma mère vosgienne. Et non, j'arrête, il n'y en aura plus derrière.
Jocelyne, impossible de trouver d'autres arguments pour... impossible de trouver des arguments pour...
Non, mais moi je soutiens plutôt dans ce sens-là, donc c'est pas moi qui vais trouver des arguments contre. Moi je suis à la retraite depuis 3 ans et je continue à faire de la mise en couleur un peu pour lui et puis pour des amis, mais voilà. Après j'arrête aussi.
Vous avez reçu le prix de la création partagée. Bravo à tous les deux, André Houot et Jocelyne Charance sont en direct du festival Bulle de Burle pour vous toute la journée. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. On fait une petite pause musicale pour le changement de plateau avec Marie Jaffredo qui nous rejoint. À tout de suite, merci beaucoup.
Odé pour le royaume de Dahomey. Ah ouais, tu pars de Sergi Pompon à Tongue. Ensemble à Toulouse, on embarque les frangins, on emmène les frangines. Réjouissez-vous, c'est Ayolé qui invite pour faire le tour du monde. Agégé, Ouida, Grand Popo, Porto Novo, quartier de Roi, tu peux oublier l'Arscoumoun. On part à la fête Vaudoun.
Mikuto Bada, né à des bons. Inuanue, Bau Bau,
Inuanue, Bau Bau,
Wanina, Sousou Sousou.
On était ensemble et on se connaissait là. Sousou Sousou. Mais jamais avant ça, on avait tant partagé.
Bau Bau.
On était ensemble et on se connaissait.
C'est
bras tendus pour trinquer vers l'inconnu, en laissant nos cœurs brailler ses envies de partage, rejoindre l'ami et le rivage, accueillis comme des fleurs on était.
Écoute au badard,
et ça fait pousser les pensées.
Bénin-Villé.
C'est du Bénin, c'est du Bénin.
Badard, Bénin-Villé, c'est bon pour la santé.
Ah ouais, non.
Malade, c'est vrai, j'étais malade dès l'arrivée, mais ça n'empêche pas de dire bonjour. Marabat, tout quand on loue, à trois sur un scooter et deux sur le toit. Allez, direction la plage, au feu de camp, des trompettes et des tambours. Le plantain, le poulet, le zinzin, les danses vaudous, leurs couleurs, les odeurs et la joie. Comme des orgues boulimiques de la vie quoi. Avant le retour à Paris,
les ardents dans le cœur, pétons-nous la porte. Et si jamais tu sentais un nœud se construire en mort, faisant une maison du bonheur, creuser une porte. Les crises y entrent libre, ici chez moi,
c'est chez toi.
Les ardents dans le cœur, pétons-nous la porte. Et si jamais tu sentais un nœud se construire en mort, faisant une maison du bonheur, creuse-lui une porte. Les murs n'ont de sens que s'ils portent un toit.
Paris,
on était invités.
Et les ogres de Barbac, yovo, yovo.
Les ogres de Barbac, yovo, yovo.
On a pris des zem-zem, mais oui, mais oui.
On vous dit ça, on n'est pas tout à fait des Chibanis. Dans c'est sûr, pour le genre mûr, on a escaladé des centaines
de murs.
C'était la première fois qu'on allait au
Bénin.
Bienvenue les amis, c'est nous les yovo. On a déboulé, déboulé à
merci, merci.
Et du retour avec la reggaeta.
Dès le départ de Toulouse via Dar el Baïda, Casablanca, rendez-vous grand popo chez Vaudou. Les mille belles héros de la réelle, on s'en fout. Y'a la familia, les hommes de la reggaeta à nous. Des couleurs, les gens, ça dansait de partout. Des percus, y'avait même des rois. À Porto Novo, quartier d'Oa, c'était Hela.
Toujours en direct du festival Bulle de Bulle à Saint-Élymie, le festival de bande dessinée, en direct avec Arthur à la technique et Léo pour cette dernière interview. C'est un plaisir d'accueillir Marie Jaffredo. Bonjour.
Bonjour.
Prix Nouveauté, Source de Bulle, Paysan, le champ des possibles. C'est édité en coédition d'ailleurs chez Stankis, j'espère que je le dis bien.
Stankis, je pense, tout
simplement. Et Les Escales avec au scénario Céline Gandner.
Oui.
Ouais, super. Et Marie-France Barrier. Alors, ça fait quoi de recevoir un prix comme ça pour une nouveauté au milieu d'une belle ribambelle d'auteurs, autrices?
Ben, ça fait toujours plaisir. Ça met en valeur l'album, ça met en avant notre travail. Donc, c'est toujours un plus pour nous. Et voilà. Donc, c'est vrai que puis, je pense que ça porte un peu l'attention sur l'album pour le public. Donc, c'est toujours bien.
Alors, on va le dire, on a trouvé la collection, enfin, vous avez trouvé le nom de la collection après un petit trou de mémoire, et moi qui n'ai pas cherché du tout, qui s'appelle Témoin du Monde. C'est-à-dire que c'est génial, hein, parce que Paysan, le champ des possibles, on va en parler justement, mais c'était aussi dans la même collection que MBS, hein,
oui.
Sur le dictateur saoudien. C'est ça, le champ des possibles aussi en bande dessinée, c'est-à-dire qu'on peut aborder énormément de thèmes et pourtant être dans la même collection.
Je crois que c'est l'avantage de la bande dessinée par rapport à d'autres formes de d'écriture, c'est qu'on peut effectivement aborder énormément de sujets, aussi bien le monde des paysans que des sujets très politiques qu'au MBS. Et cette collection parle d'énormément de choses. En fait, il y a, je crois, une petite dizaine déjà d'albums qui sont sortis. Sur des sujets très très variés, mais qui nous concernent tous.
Paysan, le champ des possibles, parlons de Marie-France Barrier, parce que si j'ai bien compris, tout est parti d'elle.
Oui, en fait, Marie-France, c'est une documentariste qui a fait du journalisme, de la télévision, elle a fait donc des documentaires. Et à la base de cette bande dessinée, il y a deux documentaires très intéressants. Qui ont retenu l'attention de l'éditeur qui lui a proposé d'en faire une bande dessinée dont le scénario a été écrit par Céline Gandner et dont j'ai fait donc les illustrations et les couleurs.
Alors justement, comment vous avez travaillé ensemble en fait? Parce que ça a été un trio ou alors comment ça s'est passé?
Alors, je suis arrivée un peu sur le tard parce qu'ils cherchaient une illustratrice. Et ça faisait un petit moment que j'étais intéressée par la BD documentaire et ils sont venus me chercher sur ce sujet qui m'intéressait. Et j'étais en train de travailler sur un album qui s'appelle Le Printemps de Sakura et je postais des pages sur Facebook et c'est en voyant ces pages qu'ils se sont dit que j'avais un dessin qui était peut-être approprié et donc ils ont tenté le coup. C'était pendant le Covid. Et voilà. Et donc les premiers contacts ont eu lieu à ce moment-là. Et voilà. Et comme je vous dis, le sujet m'intéressait. C'est un sujet qui nous concerne tous, en fait. Et que surtout, j'étais autant j'aurais pas été capable de dessiner MBS. Voilà. Autant cet album, je sentais que c'était dans mes cordes.
Cette bande dessinée, elle fait sens puisqu'il va falloir peut-être tout changer, revoir nos modes de vie, revoir nos modes de pensée. Est-ce que vous pensez que justement cette BD va faire, si ce n'est évoluer, en tout cas faire avancer quelques consciences, que ce soit un peu buté?
C'est certain que c'est pas cette BD qui va révolutionner les pratiques de la Terre entière, mais je pense qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau peuvent faire évoluer des mentalités. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense que les gens réfléchissent de plus en plus à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils cultivent, à ce qui se passe autour d'eux. Bêtement, moi, j'habite en bordure de vergers. Et je crois qu'avant, je faisais pas forcément attention à ce que faisaient les agriculteurs dans leurs champs. Et maintenant, je regarde ça et on doit tous être, on est tous concernés, en fait, par ce qui se passe dans les champs autour de nous, par ce qu'on mange, parce que le paysan, il apporte ce qui va finir dans notre assiette. Même si en France on exporte quand même pas mal de notre alimentation, mais c'est aussi une réflexion. Ça, est-ce qu'on pourrait être plus autonome? Est-ce qu'on pourrait utiliser plus les terres agricoles, mieux les terres, surtout les utiliser mieux et avec tous les, enfin en évitant la plupart des produits phytosanitaires le plus possible en tout cas.
Nous, on est en territoire rural, on a la chance peut-être d'être plus sensibilisé à ce genre de choses. Est-ce que en ville, vous pensez que ça va pouvoir arriver?
Alors, moi, j'habite en bordure de ville. J'habite près de Lyon, en fait. Je suis entre la campagne et la ville. Et je vois bien que les Lyonnais sont de plus en plus quand même attentifs à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils donnent à leurs enfants. Les cantines aussi. Je vois qu'il y a de plus en plus de bio. Même si c'est difficile, et ça j'en ai bien confiance, de nourrir, on peut pas nourrir aujourd'hui la terre entière avec du bio, mais il y a quand même une grosse réflexion à avoir là-dessus. Il y a certainement des choses à faire, et je vous dis, enfin, je pense que pas à pas, on s'oriente quand même progressivement vers ça. Ça va pas assez vite, comme plein de choses, mais c'est aussi une volonté politique, et bon, bah ça, c'est lent.
Revenons au dessin. Justement, quel est votre parcours un peu c'était quoi votre premier dessin? Moi, le mien, c'était un bonhomme bâton.
Ouais.
Faut commencer par quelque chose.
Alors, moi, c'était mon premier souvenir de dessin, c'était quand j'ai appris à lire. Et j'ai appris à lire en CP, donc avec le petit chaperon rouge. Et je me souviens que je dessinais des petits loups et des petits chaperons rouges partout dans les marges pendant toute l'année. Dans les marges de mes cahiers.
Et ça vous a jamais lâché, en fait. Votre vie a été de dessiner.
Oui, bah, comme beaucoup de dessinateurs, je pense, j'ai toujours dessiné toute ma scolarité. Après, j'ai eu un bac scientifique et de ma génération, il n'y avait pas d'école de bande dessinée, c'était pas un métier, même, enfin, dans mon esprit, c'était pas un métier. Même si moi, je dessinais beaucoup, je lisais beaucoup de bande dessinée, je faisais des petites bandes dessinées. Et donc, pour être sérieuse, j'ai fait des études d'architecture et d'urbanisme, et voilà. Et je suis devenue architecte urbaniste. Jusqu'à un moment où je m'étais toujours dit que je ferais pas ça toute ma vie. Voilà. Donc, il y a eu un moment, il y a eu un basculement vers la force noire de la bande dessinée.
Et pourtant, la BD a dû faire partie de vos vies aussi. Est-ce que vous vous rappelez de la première bande dessinée que vous avez eue entre les mains?
Alors, il y avait beaucoup de bandes dessinées à la maison. Ma mère était enseignante et pour elle, la bande dessinée, c'était une lecture. Même elle, enfant, avait des bandes dessinées. Mes grands-parents lui offraient des bandes dessinées. Donc, c'était pas une sous-lecture chez moi. On lisait tout, des romans, des bandes dessinées. Les premières bandes dessinées, c'était les grands classiques. C'était Tintin, c'était Astérix et Obélix, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Spirou, enfin, Fantasio. Enfin, c'est voilà, les classiques des années 70, on va dire. Et puis après, voilà, j'ai continué à aller en bibliothèque, choisir d'autres BD qui étaient, voilà, j'ai évolué dans mes lectures et j'entendais tout à l'heure parler de Bourgeon, et c'est vrai que ça a été pour moi une révélation aussi quand j'ai, mon frère était un peu plus grand que moi, il était abonné à Vécu, à Circus, des journaux comme ça, et j'ai découvert Bourgeon et les Passagers du Vent, et ça a été une claque, une révélation en fait, et je faisais pas trop de couleurs avant ce moment-là quand je dessinais, et c'est là que je me suis mise à l'aquarelle et à la couleur, et parce que effectivement c'est, dans la bande dessinée c'était une espèce de révolution, on pouvait raconter des histoires autre que des, enfin c'était comme au cinéma effectivement, la BD prenait une autre dimension.
Du grand Bourgeon sont nés plein de fleurs en fait, hein. Si j'ai bien compris, je pense qu'il n'y a pas un auteur, enfin un dessinateur qui ne cite pas Bourgeon, un dessinateur phare en fait.
Ben, peut-être aussi des dessinateurs, enfin moi je fais ma couleur, peut-être aussi des dessinateurs pour qui la couleur est un élément central. Parce que ce qui est frappant, surtout dans les bandes dessinées, enfin aussi dans les bandes dessinées de Bourgeon, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est sa maîtrise de la couleur qui n'avait pas d'équivalent en fait, je pense à l'époque. Si on regarde des BD comme Torgal et qu'on compare avec un Bourgeon à l'époque, c'était le jour et la nuit, quoi.
Ça c'est sûr. Quoique Torgal est excellent aussi quand même.
Oui, mais au niveau des couleurs à l'époque, c'était pas ça. Ouais.
C'est sûr. Quel conseil vous donneriez justement à les jeunes qui voudraient se lancer dans la bande dessinée ?
Alors c'est compliqué. Je suis pas forcément la personne qui va être la plus optimiste à ce sujet-là. Je pense qu'il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté. C'est pas un métier facile. C'est un métier passion, donc c'est un métier qui est passionnant, mais qui est difficile parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a des écoles de bande dessinée, mais je connais pas le taux d'emploi après être sorti de ces écoles. Il y a tellement de parts de chance aussi. Enfin, il faut du talent, il faut de la chance, il faut beaucoup de choses pour vraiment en faire un métier et pouvoir en vivre. Donc, quand il y a des jeunes qui viennent me voir, et souvent avec leurs parents, ce que je leur dis, c'est d'avoir un plan B. C'est-à-dire de faire éventuellement des études qui peuvent être en lien avec le dessin, mais qui font qu'on va pouvoir travailler pour de la publicité ou, enfin voilà, mais et peut-être que la bande dessinée soit un hobby à côté et qu'il puisse devenir un métier, mais voilà, d'avoir un plan B pour pouvoir se retourner si jamais ça marche pas, quoi.
Paysan, le chant des possibles, au scénario Céline Gandner, Marie-France Barayer, aux éditions Stenkis Les Escales. Merci beaucoup, Marie.
Merci à vous.
Et félicitations pour ce prix nouveauté. Vous serez ici toute la journée encore au festival Bulle de Burle. Merci beaucoup. Et ben voilà, Radio Arthas rend le direct aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Philippe de tout mon cœur pour son accueil absolument extraordinaire, comme à chaque fois. Je vais le dire pour toi, mon Val, je suis une bande de blaireaux. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup à Arthur qui était à la technique. Merci beaucoup à Léo, à la coordo. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Arthas et venez à Bulle de Bulle rencontrer les auteurs, les autrices. Elles sont là pour vous. Et ils prennent leur temps, elles prennent leur temps, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être venus. Passez nous voir. Restez bien sur Arthas, on n'y est pas trop mal. À très bientôt. Ciao.
Thank you.
there.